Dieu vous bénisse. On va prier. Bien-aimé Père, nous nous approchons de toi pour te dire merci pour ton amour et ta grâce renouvelée pour chacun de nous en ce jour. Nous allons conserver la vie, Père. Merci, Père, pour l'occasion que tu nous donnes encore de nous assembler. Seigneur, sans ta présence et sans ta conduite, Père éternel, nous ne sommes rien. Aussi, nous avons besoin de ta direction, besoin de ta conduite, Père, pour ouvrir pour nous les Écritures, Père. Que l'homme se mette à côté, Père éternel, et que par ta grâce, ô Dieu, toi-même, tu puisses nous aider, Père éternel, à croître dans la connaissance de Jésus-Christ. Car c'est pour cela que nous sommes là, Père éternel, ô Dieu. Ouvre-nous l'intelligence, Père éternel, pour saisir les vérités profondes, Père éternel, que tu as encore à nous donner en ces jours, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Nous voyons ces derniers temps, le but reste le même, c'est devenir un. C'est le thème vraiment central sur lequel on s'attardera très très longtemps si Dieu nous donne l'occasion, parce que tout converge vers cela. C'est ce que Dieu veut, que nous soyons un. Un avec lui et un les uns avec les autres. C'est le but du message. On n'a pas autre chose que cela. Ben, nous avons vu la fois passée naître d'eau et d'esprit. Aujourd'hui, on va parler de l'eau et l'esprit. Et comme je l'avais dit l'autre fois, l'eau et l'esprit sont deux entités indispensables à la vie. Au travers de la Bible, nous voyons que l'eau et l'esprit œuvrent toujours ensemble. Et comme je vous avais dit la fois passée, tout ce qui est matériel a été créé à partir de l'eau. Si vous allez voir la création, vous verrez que tout a été tiré de l'eau. Évidemment, c'est Dieu qui parlait. Et c'est comme ça, l'eau et l'esprit sont indispensables dans notre vie. Nous verrons même les corps que nous avons est constitué d'eau et de feu. On en parlera peut-être plus tard. Une autre chose, c'est que Dieu ne change jamais sa manière de faire les choses. La manière dont il a fait les choses la première fois, c'est cette manière-là qu'il va continuer à faire les choses. Autre chose, lorsque le but d'une chose n'est pas connu, l'abus est inévitable. Donc nous devons connaître le but de chaque chose pour que nous l'utilisons correctement. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on fera les choses comme nous comprenons les choses, alors que l'auteur ou le fabricant a dessiné la chose pour un but bien précis. Bien. Nous allons voir aujourd'hui quelques points. Nous allons commencer par Moïse. Moïse dans la maison de Pharaon. Et Moïse, comme on le sait, il est né dans un temps difficile où le peuple d'Israël avait besoin de sortir de l'Égypte. Et Dieu l'a envoyé. Seulement, sa naissance a été une naissance assez particulière parce que lorsqu'il est né, c'est à ce moment-là que le pharaon qui était en place, qui n'avait pas connu Joseph, essayait d'éliminer en fait tous les peuples, en tout cas les garçons qui naissaient, il fallait les tuer. Et nous voyons que Moïse, sa mère, pour le protéger, il a mis sur le fleuve, et la vie de Moïse a été livrée alors aux eaux. Remarquez, il est parlé des eaux, Il a flotté sur les eaux du Nil. En tout cas, c'est là qu'il a été recueilli par la fille du Pharaon. Et Moïse fut considéré comme fille de Pharaon. Oui. C'était pour lui comme une nouvelle naissance. Parce qu'il était né dans une famille juive. Et maintenant, il va se retrouver dans une famille égyptienne. Et même le nom de Moïse, c'est un nom égyptien. Ce n'est pas le nom que sa mère lui avait donné à la naissance. C'est la fille de Pharaon qui lui a donné ce nom. Et ce nom signifie « sauver des eaux ». Remarquez, « sauver des eaux ». Et nous verrons plus loin que c'est le même Moïse qui va conduire le peuple d'Israël en les sauvant par les eaux. Hein? Donc, gardez à l'esprit les eaux et l'esprit, l'eau ou l'esprit. C'est vraiment sur ça qu'on va plus s'approfondir. Bien, donc je disais que Moïse fut élevé alors dans la maison de Pharaon, et comme il est dit, quand on lit Exode 2, 10, il est dit, quand il y grandit, elle l'amena à la fille de Pharaon, donc c'est la mère de Moïse, parce que c'est elle qui l'a élevé, et celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai sorti de l'eau. Dans certaines Bibles, on dit « sauver des eaux ». Et ce nom était presque prophétique, parce que c'est lui qui va aussi conduire le peuple d'Israël hors de l'Égypte. Remarquez, le nom qu'on donne à quelqu'un peut cacher une destinée. Il peut cacher une identité, une alliance, une histoire, une amitié, une intimité ou une connexion. Tout nom porte toujours un contenu énergétique et identitaire. C'est très, très important. Donc, les noms qu'on te donne cachent beaucoup de réalités qui te déterminent. Souvent, on voit dans la Bible que Dieu va changer les noms de certaines personnes. Et selon les noms qu'il donnait, il est destiné à quelque chose. Donc, le nom n'est pas anodin. Il faut donc faire attention au nom, ou parfois même au surnom, qu'on te donne et la raison pour laquelle on te la donne. Celui qui te donne un nom a de l'ascendance sur toi et il te connecte à des réalités qui peuvent te dépasser, car il y a un monde des esprits que nous ne connaissons pas. Changer le nom de quelqu'un, c'est changer son identité. C'est lui donner une orientation, une autre orientation, c'est lui donner une autre destinée. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc, je disais que Moïse signifie sauver des eaux et il va sauver Israël de l'Égypte en passant par les eaux. Et Moïse, sous ordre divin, va fendre les eaux de la mer pour que les enfants d'Israël puissent traverser à sec. Et je crois qu'on avait déjà parlé de ça. La traversée de la mer Rouge est comme une naissance. Et peut-être on verra ça plus loin. C'est comme une naissance, la traversée de la mer Rouge. Bien. Donc, la sortie des enfants d'Israël a été une sortie miraculeuse. Je disais que cette sortie était comme une naissance. Et les douleurs de l'enfantement, c'était tout ce qu'ils ont subi pendant, juste avant la sortie d'Israël, où le peuple criait, et jusqu'à ce que Dieu vienne les délivrer. Car ce peuple aspirait à la liberté. Et leur liberté passait par croire en Moïse pour sortir de l'Égypte afin de naître en tant que peuple de Dieu. Comme aujourd'hui, notre liberté passe par croire en Jésus-Christ pour sortir du monde afin de naître en tant qu'enfant de Dieu. Il y a ce parallélisme toujours qu'il faut voir lorsque Dieu accomplit des choses. L'Égypte a connu aussi des douleurs d'enfantement. J'en ai parlé. Et il y a eu pas mal de calamités qui sont abattues sur l'Égypte. Et toutes les plaies que l'Égypte a subies, c'était comme des douleurs de l'enfantement. Donc, l'Égypte a comme enfanté deux jumeaux. il a enfanté le peuple d'Israël et la nouvelle Égypte, parce que Dieu va dire, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Tous les vaillants hommes ont été noyés dans la mer Rouge. Donc l'Égypte, du moins ce qui était resté, c'était tout à fait une autre Égypte, parce que les vaillants hommes, les guerriers, n'étaient plus là. Cela nous ramène aux jumeaux, tout à fait au début, Abel et Caïn. On peut aussi penser à Jacob et Ésaü. Donc, dans la Bible, il y a souvent des types. Bien, Moïse, comme je disais, va être adopté par la fille de Pharaon et il va devenir un Égyptien. Le frère François a longuement parlé que celui qui est adopté a les mêmes droits et les mêmes devoirs que le fils de la maison. Il n'y avait aucune, il y a aucune distinction entre les fils adoptés et les fils de la maison. Les enfants de Dieu sont des fils adoptés. Et nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs que Jésus-Christ, le Fils engendré. Amen. Quelle bonne nouvelle! On va lire Romains 8. Romains 8, à partir du verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Et je suivais un frère qui disait « Abba, c'est vrai, c'est Père, mais pour montrer que ce n'est pas Père comme on peut dire juste Père, mais c'est Papa chéri ». Donc c'est vraiment un papa affectif, quoi. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vraiment quelque chose de j'avais beaucoup aimé. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Cela veut dire que le chemin par lequel il est passé, nous devons aussi y passer si nous voulons être co-héritiers. Moïse est devenu prince d'Égypte et il était promis à un grand avenir en tant que fils égyptien ou fils hébreu qui a été adopté. Mais Dieu avait tout à fait une autre destinée pour lui. C'est toute la différence entre ce que la fille de Pharaon voulait pour Moïse et ce à quoi Dieu destinait Moïse. Ceci est aussi vrai pour les parents, qui parfois pensent que les enfants sont le prolongement de ce qu'ils sont, ou de ce qu'ils n'ont pas pu être, ou de ce qu'ils n'ont pas pu faire ou achever. Mais chaque enfant a un destin qui lui est propre. C'est pourquoi beaucoup de parents sont parfois déçus de leurs enfants. Orientez-les si vous pouvez, mais aidez-les surtout à trouver leur destinée. Votre vie n'est pas leur vie. C'est très, très important. Aidez-les si vous pouvez, mais n'empêchez pas le destin de votre fils ou de votre fille de s'accomplir. Le deuxième point, donc Moïse en Égypte, deuxième point, les enfants d'Israël sauvés de l'Égypte. Les enfants d'Israël vont être sauvés au travers des eaux, en traversant la mer à sec. Et l'armée de Pharaon va être noyée après que les enfants d'Israël y eurent traversé. On va lire Exode 14. C'est un peu un long texte, mais je pense que ça vaut la peine qu'on le lise. L'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Remarquez, l'ange de l'Éternel qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Un point important, la colonne de nuée qui les précédait partit et s'éteint derrière eux. L'ange est parti derrière et la colonne de nuée est aussi partie derrière. Elle se plaça, la colonne de nuée, elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Si vous vous souvenez, au commencement, Dieu va séparer les eaux. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel, de la colonne de feu et de nuée, remarquez, feu et nuée, regarda le camp des Égyptiens et il mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après que les enfants d'Israël, qui était entré dans la mer après les enfants d'Israël, et il n'en échappa pas un seul. Bien, avant d'aller plus loin, il nous est parlé de la colonne de feu et la colonne des nuées qui vont accompagner les enfants d'Israël à la sortie jusqu'au seuil de Canaan. On retrouve le feu et la nuée. Je vais définir la nuée, ce que c'est, et même le feu. Deux éléments implicitement rencontrés à la création. Nous avons vu qu'il y avait les eaux et l'Esprit de Dieu. Remarquez, ils sont toujours ensemble. On verra pas mal d'exemples où dans la Bible, il est question du feu et de l'eau, ou alors de l'Esprit et de l'eau. Mais c'est quoi la nuée? La nuée, par définition, est un gros nuage renfermant l'eau et épais. Par extension, c'est un amas de vapeur ou de gaz. Et le feu, c'est quoi? Le feu, c'est une combustion dégageant de la chaleur et de la lumière. On dit tout simplement la flamme. Remarquez, Dieu est comparé au feu. Moïse va rencontrer Dieu dans un buisson ardent. C'est dans Exode 3:2, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, les buissons étaient tout en feu et les buissons ne se consumaient point. C'est encore plus explicite dans Deutéronome 4:24 où Dieu nous dit, car ton Dieu est un feu dévorant. Un Dieu jaloux. Dans Hébreux 12, 28, 29, c'est pourquoi, il est dit, c'est pourquoi recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Je parle du feu et de l'eau. Jean le Baptiste, qui baptisait d'eau, va parler au peuple, leur disant que celui qui vient vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Alors que lui, il baptisait d'eau. On voit toujours ces deux éléments ensemble. Donc, dans Luc 3, 6, il leur dit à tous, « Moi, je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Très, très important dans la vie chrétienne. Baptême d'eau, baptême de feu ou baptême du Saint-Esprit. Le feu marque aussi la présence du Saint-Esprit comme dans Acte 2, à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Pourquoi il est parlé d'un vent impétueux? Il y a un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et un vent impétueux nous rappelle généralement la nuée, quelque chose annonçant la pluie. Et on verra que le Saint-Esprit va les remplir. Des langues semblables à des langues de feu leur apparirent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Il s'agit ici, les langues de feu est une manifestation de quelque chose. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Donc, on voit chaque fois le feu et l'eau. Qu'en est-il de l'homme? Il nous est dit, le souffle de vie est aussi un feu. La vie de tout être qui a souffle de vie est un feu. C'est très simple à vérifier. Lorsqu'un homme respire, il inspire de l'oxygène et cet oxygène-là est transporté par les globules rouges vers chaque cellule et utilisé comme énergie au niveau du métabolisme des cellules. Ça, vous pouvez lire dans les livres de botanique, vous verrez ça. Et cela, c'est pour que les cellules puissent vivre, ça veut dire pour que le corps puisse vivre. Et lorsque l'homme expire, quoi, quand tu expires, l'air que tu expires est chaud. Hein? Parce qu'il y a eu combustion à l'intérieur du corps. Donc, dans le corps, il y a le feu. On reviendra peut-être sur ça. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Le monde même a cette expression, le feu de la passion, le feu de l'amour. Ils savent, hein, qu'il y a le feu dans le corps. Ils parlent de ce qui enflamme le corps. Deutéronome 32, à partir du verset 21, il est parlé du feu de la colère de Dieu. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu. Ils m'ont irrité par leurs vaines idoles et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits. Il embrasera les fondements des montagnes. On avait déjà vu que Dieu était un feu dévorant. Revenons au corps. Le corps est une centrale d'énergie. Peut-être nous en parlerons un jour, parler des centres d'énergie du corps. Et il est important de contrôler ces centres d'énergie. L'homme spirituel a le contrôle de ces centres d'énergie par la pratique qu'il a de la parole de Dieu. C'est la seule chose qui permet de contrôler ces centres d'énergie. Mais on en reparlera quand Dieu voudra. D'autre part, nous savons que le corps est constitué de l'eau. Le corps est constitué de l'eau. Et remarquez, au niveau des cellules, se passe la combustion, mais le corps tout entier baigne dans de l'eau. Donc, merci, 70%, 70% du corps, c'est de l'eau. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Ça veut dire que le feu brûle au milieu de l'eau. Ça peut paraître paradoxal, mais c'est une réalité. Si vous vous souvenez, je crois que c'était Élie qui a dû mettre de l'eau sur, lors de la contestation avec les 400 prophètes de Baal. Il a versé de l'eau sur l'autel. Hein, l'eau même avait débordé et le feu est descendu. Il a consumé l'eau. Donc, l'eau peut se consumer avec le feu. C'est qui peut paraître un peu paradoxal parce que l'eau éteint aussi le feu. Mais c'est le mystère que Dieu a caché dans certaines choses. Hein. C'est un mystère. Donc, il paraît clair que même au niveau du corps, on a l'eau et le feu. C'est pourquoi le baptême d'eau et de feu est très important. Parce que c'est la manière de faire de Dieu. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est pourquoi j'avais parlé tout au commencement, il y a eu le Saint-Esprit, ou l'Esprit de Dieu et les eaux. Et je vous ai montré, même si je ne suis pas parti dans les détails, que c'est exactement ce qui se passe aussi au niveau de la femme. On en avait parlé la fois passée. Donc, il y a des réalités qui sont très, très profondes, que Dieu a mis dans sa manière de créer les choses. Donc, si on regarde bien, la nuée parle des eaux et le feu parle de l'esprit ou du Saint-Esprit, ça dépend. Il faut absolument les deux pour que la vie soit possible. Comme j'avais dit l'autre fois, c'est ce qu'on retrouve au début de l'ancienne création. Au niveau de la nouvelle création, c'est pareil. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Et pour montrer cela, on va voir un troisième point qui est Christ et l'image du Dieu invisible. On va lire dans Jean 1-4, et puis on continuera. Donc, à partir du verset 1, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Remarquez, la parole était avec Dieu, mais elle était en même temps Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien, absolument rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Nous voyons au commencement, Dieu va parler. C'est la parole. En elle, remarquez, en elle était la vie. Tiens, la parole qui est Dieu, mais dans cette parole, il y a encore la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais, au verset 12, je saute, « Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient à son nom, elle a donné, donc la parole, a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Remarquez, nul homme, nul enfant de Dieu n'est né par la volonté d'un homme. C'est toujours par la volonté de Dieu. Ce qui veut dire que si tu es enfant de Dieu, tu n'as aucune raison de te glorifier de quoi que ce soit ou de t'enorgueillir. C'est une grâce que Dieu te fait. Bien. Lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Remarquez. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Elle a été faite chair. Au commencement, il est dit, l'homme et la femme deviendront un. Ils seront une seule chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc, au commencement de la création, il y avait la parole et en elle était la vie. La parole dans la nouvelle création est une réalité spirituelle équivalente de l'eau dans l'ancienne création, à la différence que la parole elle-même était Dieu. C'est la différence. L'eau n'est pas Dieu. L'eau est une création divine. Et cette parole s'est faite chair et elle a habité parmi nous. La vie en elle, c'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu. Mais de qui s'agit-il? Parce qu'il est dit qui a habité parmi nous. La parole faite chair a habité parmi nous. Et nous savons que c'est Jésus-Christ. C'est pourquoi il est dit dans Colossiens 2, 9, « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Parce que c'est la parole qui était Dieu qui est devenue chair. C'est pourquoi dans sa chair, hein, en lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Donc, Christ est Dieu. Il n'y a pas moyen de faire autrement. Il n'y a pas moyen. Et je ne comprends pas comment les hommes ne peuvent-ils pas voir que Christ est Dieu. La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous. Elle s'est faite chair en Marie, car Dieu ne viole pas ses principes. Si vous vous souvenez, on avait parlé de ça la fois passée. C'est la femme qui donne la forme. Vous pouvez aller lire ça, je crois, dans Genèse 4, 1. Quand Ève va dire, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Et il fallait que Dieu passe par cette voie-là. Sinon, il serait opposé ou serait en contradiction avec sa propre loi. Dieu s'est fait un corps dans les seins vierges de Marie. Et certains appellent ça le mystère de l'incarnation. Hein? Dieu se faisant homme. Et ce mystère, c'est exactement ce qui se passe aussi avec l'homme et la femme. C'est exactement, c'est pourquoi Dieu est très strict sur la virginité, parce que ça a une signification profonde. C'est pourquoi quand un homme couchait avec une vierge, il était obligé de l'épouser, à moins que le papa ne refuse. C'était la seule condition, parce qu'il y a un type, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais peut-être un jour on en reparlera. Mais sachez tout simplement que ces mystères d'incarnation, c'est exactement ce qui se passe aussi dans les mariages. Donc, c'est cette parole qui a tout créé. C'est pourquoi Christ est l'image du Dieu invisible. Ça, c'est, on peut lire ça dans Colossiens. Colossiens 1, il est l'image du Dieu invisible le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination et autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Remarquez, c'est exactement ce qu'a fait ce qu'on a lu dans pour la parole. Tout a été fait avec la parole, et c'est la parole qui a tout créé. Et ici, il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. De nouveau, si on met ça, les deux textes ensemble, on ne peut que dire que la parole, c'est Christ. Il n'y a pas moyen de dire autrement. Il est avant tout, il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être premier en tout. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tout ce qui est sur la terre, que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Toute la plénitude habita en lui, c'est ce qu'il est dit. Nous avons aussi lu que Christ est le premier-né de la création de Dieu. Il est le premier-né de la création de Dieu. Et donc, il est le premier-né de tous les hommes, y compris Adam. Parce que Christ doit être premier en tout. Donc, Adam n'est pas le premier-né. Et tous les hommes ont été créés à l'image de lui. En fait, lorsque nous lisons dans Genèse 1, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu, il les créa l'homme et la femme. » Et l'image de Dieu, nous avons vu que c'est Christ. Donc, l'homme est créé à l'image de Christ. Ça ne peut pas être autrement. C'est pourquoi Christ était, nous avons lu, hein, la parole s'est faite chair. Christ étant le premier-né, donc tout homme est créé à l'image de Christ. Ceci veut dire que si Christ est chair, l'homme est créé à son image, l'homme créé à son image sera aussi chair. Si Christ est esprit, alors l'homme qui est créé à son image sera aussi esprit. Il ne peut pas en être autrement. Lisons dans 1 Jean 5, à partir du verset 5, « Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ?» C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Remarquez, il est venu avec l'eau et le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage, l'Esprit, l'eau et le sang. Les trois sont d'accord. De nouveau, ici, on voit, il y a l'esprit et l'eau. Parce que c'est capital, c'est indispensable pour la vie. Indispensable pour la vie. C'est pourquoi les baptêmes d'eau, les baptêmes du Saint-Esprit sont indispensables. Christ est venu avec l'eau et le sang, et nous savons que le sang fait le pont entre la chair et l'esprit, entre le corps et l'esprit, et que l'âme de l'homme, c'est ce que la Bible dit, se trouve dans le sang. Ça, on peut lire ça dans Lévitique 17. Car l'âme de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. C'est pourquoi, avant même que la problématique du péché ne soit posée, l'agneau fut immolé dès la fondation du monde. Et ça, nous lisons ça dans Apocalypse 13. Donc, Dieu n'a pas été surpris quand l'homme a péché. Et donc, Apocalypse 13, à partir du 8, « Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ce dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde, dans les livres de vie de l'agneau qui a été immolé. » Donc, le problème du péché a été résolu dès la fondation du monde. Et la chair n'a pas d'emprise sur celui qui est né de Dieu. Pas du tout. Colossiens 2 nous dit, à partir du verset 11, « Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. » C'est dépouiller du corps de la chair. Et nous verrons peut-être à l'autre occasion les œuvres de la chair. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Donc, Christ est le premier-né d'entre les morts. Et nous, nous avons été ensevelis avec lui par le baptême. Ici, il s'agit du baptême d'eau. Et nous avons été ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité. Bien, revenons un peu à la naissance. Il faut naître d'eau et d'esprit. Ceci est capital. Et nous venons de voir qu'il est parlé des baptêmes ensevelis. Nous avons été ensevelis par les baptêmes. Et les baptêmes, c'est type de la mort. Pourquoi? Parce que s'il y a une naissance, ou s'il y a une naissance, il y a aussi une mort. Il y a donc les baptêmes d'eau, mais il y a aussi les baptêmes de l'esprit, ou le baptême de feu. Le baptême d'eau est lié à la mort. C'est ce que nous venons de lire là, enseveli. Et le baptême du feu est lié à la vie. On a les deux aspects d'une même réalité. Il n'y a pas de vie sans mort. Et il n'y a pas de mort s'il n'y a pas eu vie. Non. L'eau et le feu sont indispensables à la vie pour naître. Mais il y a aussi d'autres fonctions pour l'eau et pour le feu. Il y a d'autres fonctions parmi lesquelles on peut citer la purification. Et ça, Nombre nous le dit dans Nombre 31, à partir du verset 21. Les sacrificateurs Éléazar fit aux soldats qui étaient allés à la guerre. Voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite à Moïse. L'or, l'argent, l'airain, le fer, l'étain et le plomb, tout objet qui peut aller au feu, vous le ferez passer par le feu pour le rendre pur. Mais c'est par l'eau de la purification que sera purifié, tout ce qui ne peut aller au feu, vous le ferez passer dans l'eau. Remarquez, il y a l'eau et le feu. Et chacun a sa fonction dans la purification. Vous laverez vos vêtements le septième jour et vous serez pur. Ensuite, vous pourrez aller dans les camps. Vous verrez aussi que dans la Bible, lorsqu'il s'agissait des lois de purification, ou parfois de l'hygiène, tout ce qui concernait en fait manger, Dieu disait toujours, Si quelqu'un mange tel aliment, il sera impur jusqu'au soir, il doit se laver les vêtements et il doit se laver tout le corps. Vous pouvez lire ça dans Lévitique, mais ça sera une autre occasion pour montrer que Dieu est regardant même dans notre hygiène. Ce n'est pas quelque chose où Dieu dit non, faites comme vous voulez. Et d'ailleurs, je pense même si mes souvenirs sont bons, il y a une infirmière, c'est une Britannique, quoi, qui était partie à la guerre de Vietnam, je crois. C'est à partir de lui que toutes les règles de propriété ont été, je crois, définies. C'est Nightingale. Il n'y a pas d'infirmière ici. Nightingale, hein? Ah, voilà. Voilà le nom. Je me souviens très vaguement. J'ai lu un livre d'elle, ou en tout cas quelqu'un qui a écrit sur elle, qui a beaucoup fait pour que les soins infirmiers soient aujourd'hui, en tout cas que ce soit la base même de ce qu'on connaît au niveau de soins infirmiers. Donc, Dieu est regardant même dans notre hygiène. C'est pourquoi il faut être propre. Non seulement le corps, mais l'intérieur aussi. C'est important. La terre et les cieux passent aussi par les mêmes processus du baptême d'eau et du baptême de feu. La terre est déjà passée par le baptême d'eau. Ça, c'est ce que Pierre nous dit dans 1 Pierre 3. Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvés à travers l'eau. C'est ce qu'on voit aussi avec la sortie des enfants d'Israël. Ils ont été sauvés par le passage au travers de la mer Rouge. Ici, c'est le déluge qui a, si vous voulez, qui a enlevé, disons ça comme ça, l'arche. Mais avec Moïse, il devait traverser les eaux. Le point important ici, c'est les eaux. Il y a toujours les eaux en présence. Continuons au verset 21. Cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Donc, nous avons vu que le baptême est lié à l'ensevelissement, donc à la mort, mais le baptême est aussi lié à l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Luc nous le dit dans Luc 9, 62. Il dit ceci: Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. Ça veut dire que l'engagement que tu prends, il faut le prendre au sérieux. Ce n'est pas après demain dire, bon, je ne vais plus continuer. C'est ce que le Seigneur dit. Celui qui met à la charrue, qui met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. Dieu veut un engagement total dans ce qu'on fait. Et surtout, si on veut le suivre, c'est le point de départ de tout. Ce n'est pas le sujet, mais nous y reviendrons un autre jour lorsque nous parlerons des vœux. Et il ne faut jamais prendre un engagement ou un vœu à la légère. La terre et les cieux vont aussi passer par une sorte de baptême de feu. Et ça, on lit ça dans 1 Pierre 3. Le texte est un peu long, mais allons-y. À partir du verset premier. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant « Où est la promesse de son avènement ?» Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Donc, nous voyons qu'il y aura aussi un temps où les cieux et la terre vont passer par le feu pour les jours du jugement et de la ruine des hommes impies. Et ce n'est qu'après ce processus de purification qu'un nouveau ciel et une nouvelle terre vont voir le jour. Une sorte de nouvelle naissance pour la terre et pour les cieux. Ça, on peut lire ça. Je n'ai pas noté la référence, mais ça doit être dans Apocalypse. Je ne sais pas car le chapitre, je n'ai pas noté le chapitre. Mais bon, puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je crois que c'est 21. Je ne sais pas si quelqu'un peut m'aider. Apocalypse 21, je crois que c'est le premier. C'est juste pour être certain que la référence est bonne. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. C'est bien ça? Ok, merci. J'avais juste besoin de la référence parce qu'il y en a qui notent. Puis j'ai vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Donc, même la terre et les cieux vont passer par une nouvelle naissance. Et c'est là, après être baptisé dans l'eau et avoir eu le baptême de feu qui a purifier tout. Et j'entendis, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Remarquez, c'est seulement quand le nouveau ciel et la nouvelle terre vont voir le jour, que Dieu dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui est assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Le processus par lequel la terre et les cieux vont passer, c'est le même processus par lequel tout croyant passe pour avoir la nouvelle naissance. C'est exactement la même chose. C'est le même processus. Comme je disais, Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. On voit que les nouvelles choses ne prennent place que lorsque les anciennes auront disparu. C'est exactement le même processus que suit l'homme qui croit au Seigneur Jésus-Christ. Il devient une nouvelle création et les choses anciennes sont passées. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens 5, 16, 18. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc, on voit l'importance du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Et comme nous avons vu, nous avons lu ça dans Apocalypse, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Et Dieu ne viendra habiter en toi que lorsqu'il y aura eu le baptême d'eau et le baptême de feu pour purifier tout, afin que, parce que Dieu est saint, il ne peut pas habiter dans un endroit qui n'est pas saint. Donc, il doit tout brûler pour qu'il fasse de toi sa demeure. Et on va s'arrêter là. C'est le but, la nouvelle naissance, le baptême, c'est des choses très, très capitales. Parce que nous voyons même au travers de sa création, je vais parler des cieux et de la terre, Dieu fait exactement la même chose. Et c'est pourquoi il nous faut absolument rechercher le Saint-Esprit. Mais il y a une condition, la purification. La purification est importante parce que Dieu ne peut pas habiter dans un tabernacle qui n'a pas été purifié. C'est très, très important. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour l'occasion donnée, Père, de partager ces quelques moments. Et nous nous rendons compte de l'importance, Père éternel, ô Dieu, de cette purification, Père éternel. Car, ô Dieu de miséricorde, tu n'acceptes de vivre que dans un tabernacle qui a été purifié. Et toi-même, tu t'en charges, Père éternel, ô Dieu. Car, ô Dieu de miséricorde, tu vois d'abord l'engagement de l'homme qui est le point de départ de tout. Et c'est là, ô Dieu de miséricorde, nous avons besoin d'être des hommes sérieux, Père éternel, dans nos engagements. Afin que, ô Dieu, cela ne fasse pas obstacle, Père éternel, ô Dieu, dans notre marche, Père éternel, ô Dieu. Nous te bénissons, Père, pour l'occasion que tu nous as donnée de partager ces quelques moments. Que tu nous aides à ruminer ces choses, Père éternel, et surtout à chercher ta face, Père éternel, ô Dieu, pour nous aider, pour nous éclairer, Père éternel, dans le processus de purification, Père éternel, ô Dieu, afin que toi, tu fasses de nos vies ta demeure, que tu fasses de nos corps ta demeure, Père éternel, ô Dieu. Nous te bénissons, Père éternel, ô Dieu, que tu reçoives honneur, louange et gloire, Père éternel. Bénis chacun de nous, Père éternel, ô Dieu. Et nous recommandons aussi, Père, notre retour entre tes mains, que tu nous protèges, que tu nous gardes, Père éternel, ô Dieu, de tout mal, Père éternel. Et s'il y a un lendemain pour nous, Père éternel, ô Dieu, oh, nous nous retrouverons encore, Père éternel, ô Dieu, que tu nous inspires, Père éternel, dans nos rencontres, Père éternel, afin que toi, tu sois honoré et que toi, tu sois glorifié, Père éternel, ô Dieu. Merci pour tout, Père éternel. Que la paix de Dieu, Père éternel, nous accompagne, ô Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen.